dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
la Féline.
Eh bien, qui suis-je? C'est une grande question à laquelle on peut répondre par un état civil. Je m'appelle Agnès Guéraud, j'ai un petit garçon. Et puis, il y a aussi la part d'artiste qui peut servir à répondre à cette question sur le long terme. Donc, pour savoir qui je suis, il faut écouter déjà 4 albums de La Féline, qui est donc le nom de mon groupe. Un groupe où j'appelle groupe, bon, je suis toute seule, j'écris des chansons, je les compose, je les arrange. Mais je travaille aussi avec un musicien qui s'appelle Xavier Thierry, qui est beaucoup présent, et puis là récemment avec François Viraud. Donc je suis une musicienne autodidacte, et voilà, j'aime faire les chansons, j'aime les chanter aux gens, et ça fait partie d'un besoin existentiel irrépressible.
Dans les oreilles de...
Et c'est à Tarbes, sa ville natale, que nous emmène ses dernières chansons, de la place Verdun au quai de l'Adour, en passant par la route de Pau. La Féline, qui tient son nom d'un film de Jacques Tourneur, met en musique ses souvenirs. Psychogéographie musicale pour cette musicienne autodidacte, philosophe de formation, qui nous livrait, en plus de ses disques, une passionnante dialectique de la pop en 2018, un livre encyclopédie dans lequel elle s'interroge sur la profondeur de ce genre longtemps qualifié d'inauthentique. Pendant une heure sur Radio Nova, ce sont les disques qu'elle aime qui la révèlent. Et pour commencer, quel serait celui qui vous traduit le mieux et par lequel vous souhaiteriez vous présenter aux auditeurs de la radio?
On pourrait mettre un morceau de Robert Wyatt qui s'appelle Alliance. Donc c'est un morceau qu'il fait dans les années 80 avec une petite boîte à rythme. En fait, il arrive à faire une sorte de jazz, mais avec des outils synth-pop années 80. Les paroles, c'est un peu des paroles un peu marxistes. En fait, c'est très, très politique, tout en étant presque voilà, avec cette voix très douce de fossé qu'il a presque à la limite du faux. Et je dirais que Robert Wyatt, c'est peut-être le chanteur qui me touche le plus de tous les temps. Et j'adore voilà, cette manière qu'il a de mélanger des dimensions de la musique, des genres musicaux, et d'en faire quelque chose d'absolument singulier. Et je crois que parfois, voilà, avec La Féline, c'est le genre de choses que je recherche.
There is a kind of compromise you are master of. Your endless gentle nudging left us polarized. It's hard to talk to enemies. We are enemies. What we had in common makes it even worse. You're proud of being middle class, meaning upper class. You say you're self-sufficient, but you don't dig your own coal. Thank you.
Dans les oreilles de
La Féline.
Mélanger les genres, chercher la singularité, voilà ce qui séduit notre invité ce matin, La Féline, dans la musique de Robert Wyatt, qui après Soft Machine a sorti plusieurs albums solo. Old Rotten Tat, son quatrième, sort en 1985 et s'ouvre sur le titre que vous entendiez à l'instant. C'était Alliance, des chansons à texte espagnol sur une guitare en carton, des évasions cassettes, du métal et des concerts dans des campings. C'est la virée que nous offre La Féline ce matin.
No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that I've been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay, we turn out into day. The company was gay, we turned night into day. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just too up to down. No milk today, my love has gone away. The bottle stands for a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so.
Dans les oreilles de
La Féline.
Herman's Hermit est leur unique grand succès en France, No Milk Today, qui atteindra la deuxième place dans les charts. Un morceau, un souvenir qui a jailli dans les oreilles de notre invitée ce matin sur Radio Nova, la musicienne La Féline. Mais commençons par le commencement, par la genèse. Quel fut son premier souvenir de musique ?
Je pense que ça doit être les chansons de Paco Ibáñez, qui est donc un compositeur espagnol. On pourrait dire un peu le Brassens espagnol, mais en plus dark, en plus profond, au sens où c'est quelqu'un qui a adapté beaucoup de poèmes de Garcia Lorca, de poètes du siècle d'or aussi espagnols. Et on écoutait beaucoup ça chez moi. Je suis la dernière d'une fratrie de quatre et ma mère est andalouse. Et donc, toute petite, voilà, j'ai vraiment entendu ces chansons. Et alors, notamment, on pourrait écouter « Donde llevas tu jinete muerto ?» El jinete, voilà, ça veut dire le cavalier.
En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto?
Il nous parle d'un cheval qui court dans la nuit avec un cavalier mort, juché sur sa croupe, tu vois. Donc c'est déjà, t'as la vision, c'est pas tout à fait du Brassens. C'est...
Et donc il y avait Paco Ibáñez à la maison, il y avait qui d'autres? Donc vous avez des frères et sœurs plus grands, eux jouaient leur musique également à la maison, ouais. C'était quoi?
Eh ben, mon frère était assez passionné de musique. Lui, c'est vraiment mon frère aîné, 14 ans de plus que moi. Donc, il avait, il écoutait, beaucoup de choses qu'il m'a transmises, hein. Sonic Youth, Neil Young, pas mal de prog. Qu'est-ce qu'il avait? Janis Joplin aussi, j'ai découvert par lui. Mes sœurs, j'avais une sœur qui était très fan de David Bowie, les affiches partout dans la maison. Et je me souviens de Police aussi, j'adorais petite. Il paraît que je disais, mais moi, plein d'huile et zagaine pour la chanson I Can't Stand Losing You.
Eric, c'est ça la première musique que vous soyez appropriée, chanson, enfant?
C'est possible, ouais, parce que là j'étais vraiment petite, j'avais qu'à 4 ans, donc ouais, en tout cas anglo-saxonne, du monde vraiment pop anglo-saxon, c'est sans doute un de mes premiers souvenirs. Et puis il y a aussi Herman's Hermit, No Milk Today, ça je l'entendais à la radio. Et j'adorais, vraiment j'attendais qu'elle repasse. J'avais des enregistrements qui commençaient toujours, enfin jamais au début du coup. Ça peut paraître un peu romantique dit comme ça, mais ça évoquait un monde et une forme de vie à laquelle je n'accédais pas forcément à Tarbes. C'est une chanson qui est un petit peu psychédélique dans ses sons, avec cette voix très douce. Donc je pense que ça m'évoquait une espèce de promesse de vie cool. Et psychédélique, quoi.
La meule de grès scellée à même le sol de terre battue dans le foyer berbère de Kabylie. Et cette meule de grès entraîne un très beau mouvement du bras, un mouvement rond qui se communique au champ tout entier et qui berce.
Il y avait des vinyles dans la maison de mon père en Espagne. Il y avait Piccolo Saxo et compagnie. Il y avait un vinyle de Tao Samrouche aussi, je me souviens. Voilà, donc chanteuse berbère.
Nova. Dans les oreilles de
La Féline. Il y avait Hugo Frey, Voilà, ça je me souviens de ces musiques-là sous forme de vinyle. Et par contre, voilà, tout ce qui est pop, tout ce qui est lié au rock, ça m'était transmis par cassette copiée. Donc c'était vraiment les cassettes.
Donc sur vos premières cassettes, il y a quoi?
En fait, bizarrement, mes premières cassettes vraiment à moi, il y a des choses que j'enregistre de moi-même. Enfin, je faisais des chansons très vite. J'avais un petit enregistreur, deux enregistreurs cassettes, et je faisais de l'overdubbing. Et je faisais des chansons en espagnol. J'avais très peur de perdre ma mère, parce que assez vite, je me suis retrouvée seule avec elle. Et c'était mon dieu sur terre, en fait, pour moi. Et voilà, j'avais toujours des chansons sur El Dolor, La Madre, tout ça. J'orchestrais ça avec un petit shaker derrière. Et donc ça, c'est vraiment les toutes premières cassettes. C'est un outil d'enregistrement plutôt qu'un outil de diffusion de la musique enregistrée. Et donc la musique enregistrée, je l'écoute, j'ai plus de souvenirs adolescentes. Vers 14-15 ans, où là j'achète, ou un peu plus tôt cela dit, mais voilà, j'ai des cassettes de Metallica, ou de Megadeth, ou de Michael Jackson. Je suis fan de Michael Jackson aussi, comme
tout
le monde.
Vous êtes fan de Michael Jackson avant Metallica?
Avant, ouais. Ouais, c'est vrai. Disons que Metallica, c'est un premier moment d'émancipation quand tu commences à rentrer dans un genre qui n'est pas simplement le mainstream pop, même si j'ai une admiration infinie pour Michael Jackson, mais c'était Bad. Mais il y avait, un Thriller, ça j'ai un souvenir, ça doit être mon premier souvenir télévisuel. Moi je me rappelle n'avoir aucune réflexion sur le statut afro-américain de Michael Jackson. C'est juste lui et c'est juste la star absolue, et avec cette question du visage comme ça, qui se rend de plus en plus indéterminé. Plus il avançait dans sa carrière, moins il avait de visage, quoi, d'une certaine manière. C'est très, très troublant. Et je deviens plus concernée, plus littéraire, plus avec la musique populaire en écoutant du métal. Parce que là, ils ont des textes pas possibles où t'apprends plein de super mots en anglais. Plutôt Metallica, mais j'avais découvert avec le Black Album, je crois que c'est 91, donc j'ai 11 ans. Et j'ai remonté en fait le fil. C'est vraiment l'expérience de fan que j'ai eue complétiste. C'était vraiment avec ce groupe, parce que là, j'ai vraiment voulu avoir tous les disques, y compris Garage Days Revisited. C'est un groupe où qui m'a donné envie de jouer de la guitare. Et voilà, j'avais demandé, on m'a dit oh, non, c'est trop cher une guitare. Puis je m'étais fait une espèce de guitare. Bon, ça fait vraiment l'histoire, la Linda de Souza de la musique, mais je m'étais fait une guitare en carton. Et ma mère avait eu un peu pitié, quoi. Elle s'est dit, bon, quand même, la pauvre, avec du fil de pêche, évidemment, ça sonnait pas du tout. C'était pas du tout assez tendu. Mais j'avais dit, mais non, mais vous inquiétez pas, ça me permet quand même de travailler avec la tablature pour un morceau de Metallica qui s'appelle One. Il y a un très bel arpège comme ça, la guitare. Et j'avais acheté la partition, quoi, les tablatures. Mais puis finalement, ils ont dit, bon, on va peut-être acheter une petite guitare nylon. Ouais.
Nova dans les oreilles de
La Féline.
Alors ouais, c'est un peu bizarre, quoi, parce que ça, je pense pas que ça dise grand chose sur la musique de La Féline, mais j'ai un souvenir d'avoir vu Elmer Footbeat en colonie de vacances. C'était la folie, les gens étaient très très excités.
Elle est toujours d'accord.
Sinon, j'ai pas vu grand-chose. Bon, y a en fait, j'ai découvert, mais maintenant, que, par exemple, à Tarbes, il y a ce lieu qui s'appelle le Parvis, qui est une scène nationale qui est super, hein, il programme des choses géniales et régulièrement. Mais voilà, moi, socialement, j'étais dans un milieu où, en fait, on n'allait pas découvrir des choses, quoi.
En fait, les premiers groupes que vous voyez, c'est soit, j'imagine, ceux peut-être des amis de vos frères et sœurs. Mm-hmm. Ou vous, ce que vous...
Bah, c'est moi-même, quoi. Je suis le premier groupe que j'ai vu sur scène. Non, mais c'est un peu étonnant, mais c'est presque ça.
Donc ça voudrait dire que les performances, vous les voyez plus à la télé, au cinéma, qu'en réel.
Et d'ailleurs, je vois plus la musique au cinéma que des performances filmées. J'ai pas de souvenir d'avoir vu une performance filmée. Pareil, hein, parmi les premiers souvenirs musicaux, il y a Kimaï de Morricone, mais dans la pub de Royal Canin, quoi. Mais c'est parce qu'on parle de premiers souvenirs musicaux. Après, j'écoute d'autres choses de Morricone, évidemment, qui vont me marquer durablement.
Et donc, pour revenir au cinéma, au film, quels sont les premiers films justement dans lesquels vous entendez ou vous voyez de la musique ?
Il y a toute une part, sans doute, de musique inconsciente, les Maigret, justement, tout ce qui passe à la télé et qui va venir nourrir un imaginaire musical, des associations musicales. Et ça devient conscient assez tard, parce que là... J'ai envie c'est Kubrick en fait qui sert comme de révélateur. Barry Lyndon, là, c'est vraiment un film qui me bouleverse, mais presque à 60% à cause de sa bande son, quoi. La musique de Handel au moment du duel, qui en fait c'est qui s'appelle la sarabande de ce morceau, et qui est une danse, qui est un morceau qui est fait pour être joué rapidement, et que Kubrick a l'intelligence de reprendre dans une version, enfin d'utiliser une version où, au contraire, c'est joué très lentement. Donc, du coup, ça devient absolument sinistre. Et ça me subjugue, quoi. C'est comme les sorcières de Ligeti, là, dans 2001, l'Odyssée de l'espace. La première fois qu'on entend ça et qu'on est projeté comme ça dans l'univers et qu'on entend ces voix, c'est saisissant. Et puis il y a le très beau, très belle scène aussi, éclairée à la bougie, là, dans Barry Lyndon, où il y a le piano. En tout cas, ça fait. En fait, ma vie de concert, elle est plutôt à partir du moment où je suis parisienne. Je me mets à plus sortir. Finalement, les choses qui me marquent le plus, j'ai un souvenir miraculeux d'un concert des Breeders. C'était au Trianon. Voilà, il y avait cette puissance de composition et de cette pertinence qu'elles ont, les sœurs Dill, quoi, dans la composition, dans le rapport, l'orchestration en fait, entre les instruments, tout en étant assez minimal, assez rêche. Et voilà, et je trouve que pour moi, c'est des modèles en fait, d'écriture et de rapport à la musique, parce que en fait, c'est quand même des stars. Et tout ça a été amené avec une immense simplicité. Donc, ça, c'est ce genre de performance qui m'émeuve, quoi, c'est sûr.
Thank you.
les oreilles.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles de...
La Féline.
The Breeders sur Radio Nova, groupe monté par les sœurs Deal, ex-Pixies, auteurs du célèbre Cannonball et dont vous entendiez à l'instant un extrait de Mountain Battles, quatrième disque, Bang On. C'est le morceau sélectionné par La Féline pour illustrer ce souvenir de concert. La Féline, dont le dernier album Tarb est désormais disponible et qui convoque ce matin sur Radio Nova les disques découverts récemment, mais également ses essentiels. On parle texte, on parle texture et on parle même de disques qui remettent le compteur de vos oreilles à l'heure. C'est dans quelques minutes sur Nova.
Je veux être aimée pour moi-même et non pas pour mes ornements. Je veux être adorée quand même, sans cheveux, sans chair et sans gants. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des habits c'est facile, avec des bijoux, des fourrures. J'aime ce qui est difficile, je veux être aimée sans parure. Je veux être aimée pour ma peau et non pas pour des peaux de bête. Aimée pour la soie de mon dos et non pour les soies qui me vêtent. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des cheveux c'est facile, on peut se cacher derrière eux. J'aime ce qui est difficile, je veux être aimée sans cheveux. Je veux être aimée pour mon crâne, pour mon petit os pariétal. Je veux que les hommes se damnent pour mon charmant occipital. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel, éternel. Avec des chairs c'est trop facile, c'est vulgaire et c'est malhonnête. J'aime ce qui est difficile, je veux qu'on aime mon squelette. Je veux être aimée pour le pire, je veux être aimée pour mes os. Je veux que les hommes délirent comme des chiens sentimentaux. Belle dans le simple appareil d'une fille arrachée au sommeil éternel.
Dans les oreilles.
Dans les
oreilles. Dans les
oreilles de... La Féline.
Retour en 1968 sur Radio Nova avec cet extrait du premier disque de Brigitte Fontaine sur Sarava, le label défricheur de Pierre Barou, qui reste d'ailleurs aujourd'hui le plus ancien label indépendant français, toujours en activité. Brigitte Fontaine est folle, c'est le nom de ce disque sur lequel on retrouve Éternel que vous entendiez à l'instant. Car voici venu le temps de parler texte avec notre invitée ce matin, Agnès Guéraud, a.k.a. La Féline.
Parmi les grandes, bon, c'est des gros classiques, hein, mais les grandes maîtres pour moi, ou maîtres et maîtresses d'écriture, il y a Anne Sylvestre, Brigitte Fontaine, vraiment, il y a tellement de super chansons.
Et la porte d'entrée, c'était qui?
La porte d'entrée dans le chant en français? Eh bien, Yves Montand.
Ça paraît ouf, mais...
Oui, je dirais Yves Montand, tu vois, parce qu'il y avait un... Avec, à côté de la cassette de Paco Ibáñez, il y avait une cassette qui s'appelait... Alors, je ne sais plus si c'est le titre exact, mais genre Chansons de France, Chansons politiques de France. Et il y avait toutes ces vieilles chansons là écrites par Aristide Bruand sur les canuts, par exemple.
Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tout nus.
Le roi Renaud de Guerre revint, portant ses tripes dans ses mains. Et c'est là que j'avais entendu aussi cette chanson que j'ai reprise, Le roi a fait battre tambour.
Le roi fait battre tambour, le roi fait battre tambour, pour voir toutes ces dames. Et la première qu'il a vue, lui a ravi son âme.
J'ai repris dans un petit EP qui s'appelle Écho. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait me remettre totalement à l'écriture en français. C'est qu'à l'époque où j'ai fait cette chanson, cette reprise, je vivais aux États-Unis, en Californie, pendant un an. Et j'avais fait des concerts dans un quartier de San Francisco. J'avais plein de chansons en anglais. Et quand j'ai chanté cette chanson, avec conviction sans doute, parce que les paroles sont magnifiques, et c'est ça qui les avait saisies. C'était pas du tout les faux trucs en anglais. C'était... Et je m'étais dit, mais en fait, il faut à tout prix chanter dans la langue où tu as le plus de force expressive, en fait. Peu importe la capacité qu'auront les gens à déchiffrer ce que tu dis. C'est pas ça le truc important.
Nova.
Dans les oreilles de
La Féline.
Et quel est le disque dont vous pourriez dire que c'est celui qui vous suit depuis le plus longtemps?
Sans doute Spirit of Eden de Talk Talk. Je le découvre quand j'ai plus de 20 ans. Je le découvre parce qu'il m'est transmis par quelqu'un qui connaît bien la musique et qui me fait découvrir plein de choses. En fait, c'est à nouveau un disque qui est rempli de différents genres, en fait, qui est en fait inspiré par Kind of Blue de Miles Davis et qui dialogue avec une forme qui reste encore assez pop, c'est quand même des vraies chansons écrites par Mark Hollis. C'est Talk Talk, donc c'est un groupe qui vient d'un truc ultra mainstream, très génial, mais voilà, qui s'en éloigne. Et cette espèce de mouvement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui montre qu'en fait, il y a une histoire de, pas seulement de la musique, mais des musiciens et de leur rapport à la musique, et de leur rapport à la pop, et à l'immédiateté. Et de voir voilà, ce musicien comme ça qui va jusqu'à presque s'égarer dans quelque chose qui est pas du tout pop, mais qui en fait le disque singulier qu'on connaît, quoi, Spirit of Eden, et qui pour moi allie deux choses fondamentales, c'est qu'il y a à la fois quelque chose de très avant-gardiste, il fait carrément du click and cut, et en même temps c'est ultra expressif, c'est ultra humain. L'avant-garde, elle n'est pas là pour devenir snob et plus avoir de rapport affectif à la musique. Au contraire, elle le renforce, quoi, ce rapport.
Donc, c'est une double quête.
Ouais. Et en réalité, c'est la même. Enfin, je veux dire, le gars qui perd la vérité de son expression sur la route de l'avant-garde, c'est qu'il s'est planté, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, mais voilà. Là, pour moi, c'est un peu un Graal, en fait. Ouais.
Et alors, pour revenir au début de La Féline, donc là, vous me disiez en début d'émission qu'au début, c'est un trio. C'est donc votre première formation.
J'ai même eu un moment une formation. C'était Agnès et ses frères. C'était mignon. Ça faisait un peu nom de film français. J'ai été entourée et en même temps ça a quand même toujours été mes chansons et je me suis entourée de gens qui ont eu la bienveillance et le talent de m'accompagner là-dedans. Je me suis entourée de gens qui m'ont aidée à faire éclore cette vision et Xavier Thierry, c'est un allié vraiment par rapport à ça parce que il a ça à la fois. C'est un multi-instrumentiste, il est fantastique, quoi. Mais il me laisse complètement. Enfin, il se met au service, quoi. Et puis là, dans Tarbes, il y a des morceaux où il a rien ajouté, en fait.
Quelle musique vous avez en partage avec lui?
Ah, beaucoup. Mais on revient souvent à notre amour des solos de Neil Young sur Cortez The Killer, par exemple, ou cet album fantastique qui s'appelle On The Beach, et il y a un morceau qui s'appelle Ambulant Blues, et j'adore. C'est vraiment une balade Et puis il y a un échange comme ça où il dit ouais, j'ai jamais vu un homme qui dise autant de mensonges. I never seen a man who tells so many lies. J'ai cru tells a different story for every pair of eyes.
I never knew a man could tell so many lies. He had a different story for every set of eyes. How can he remember who he's talking to? 'Cause I know it ain't me, and I hope it isn't you.
Nova.
Dans les oreilles de
La Féline. Ouais, c'est intéressant de se dire qu'il y a toujours un écart entre ce que t'écoutes et ce que t'arrives à faire, et pas seulement techniquement, c'est ce que t'arrives à incarner, est-ce qu'il est pertinent d'incarner. Et je sais que voilà, moi j'écoutais beaucoup de hip-hop old school, et bon toujours, mais voilà, quand j'avais 25 ans, j'étais voilà, méga fan de Grand Master Flash, de toute la musique de Détroit, Jeff Mills et compagnie, et évidemment que je pouvais pas faire passer ça dans ma musique, fallait faire autre chose, fallait faire quelque chose qui soit juste avec ce que j'étais ici et maintenant, quoi. Donc oui, Neil Young, si, bah je pense que si on écoute certains solos de guitare un morceau de La Féline assez ancien qui s'appelle La Nuit du Rat, on se rend compte que ce truc nocturne, voilà, avec finalement trois notes, mais traité presque un peu comme un rag, ça produit. On peut trouver des liens, mais bon.
Ouais. Et est-ce que vous composez toujours de la même manière, ou est-ce que votre manière de composer elle a évolué avec les années?
Disons que je me suis affermie dans une certaine manière de faire qui m'inspire. J'ai pas l'impression d'avoir changé radicalement, j'ai l'impression que ça a toujours été un peu comme ça, mais maintenant, j'en suis sûre, j'en suis certaine, comme je dis dans une chanson, Adieu l'enfance. Je ne crie jamais les paroles avant de faire une musique. Peut-être justement parce que j'ai fait des études littéraires, de philo et tout, mais je déteste les effets de littérature, en fait.
Vous voulez pas être bloqué par la musicalité de la langue ?
Voilà. Ouais. Et donc, je veux que ce qui est dit dans la chanson, à la fois sur le plan sonore et sur le plan des images que ça convoque, soit complètement cohérent directement avec la musique. Donc, en fait, c'est la musique qui me dicte qu'est-ce que je vais raconter. Et quand, dans Vie Future, voilà, j'avais commencé une instru comme ça pour la musique de Palmier Sauvage, et il y avait ce groove assez lent, presque un peu torpide, et je me suis mis à penser à Lana Del Rey, au Palmier du Sunset Boulevard, on était en pleine ambiance, collapsologie, apocalypse, et hop, je suis partie, voilà, les Palmiers Sauvages du Sunset Boulevard. Et c'est ça ces paroles sont venues, et donc après, bien sûr, les images se nourrissent elles-mêmes, et j'écris en fonction de ça.
Les palmiers sauvages du Sunset Boulevard m'a étouffé. 2034, effet de serre, toute la terre, cimetière assuré.
Et pareil pour Tarb, le premier morceau, j'avais juste ce drone, juste une note comme ça, avec ce son un peu désuet. Et puis je me suis mis à chanter, pour moi c'est presque ouais, un truc un peu élégiaque, une sorte de blues, de chansons qu'on peut chanter au bord du ruisseau, quoi. Je me suis projetée dans quelque chose finalement d'assez naturaliste. Et voilà, quoi, ça fait un moment que je ne suis pas retournée à Tarbes. C'est ça que j'avais envie de dire sur ce son, quoi. Et progressivement, voilà, après je me suis dit, bah ouais, mais en fait je vais faire tout un disque parce que ça me parle, parce que j'ai envie de faire une cartographie musicale et de ce lieu aussi.
Ça fait un moment que je ne suis pas retournée à Tarbes. Tarbes.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de
La Féline.
Et qu'est-ce que vous écoutiez pendant la composition de ce dernier disque ?
J'écoute plein de trucs différents. J'écoutais aussi Turia Songs de Alice Coltrane. Donc c'est des chansons spirituelles. Enfin, donc ça fait un peu traduction de l'anglais, mais c'est des chansons de dévotion, devotional songs. D'ailleurs, c'est Turia Sings, hein, le nom exact de l'album. Et en fait, c'est une cassette qu'elle a faite à destination de ses étudiants pour célébrer Krishna. Donc elle chante en sanskrit dans les années 80. Et alors, c'est juste, elle joue au synthé. Et elle chante, et donc il y a ce morceau qui s'appelle Krishna. Krishna, Krishna, Krishna. Et qui module comme ça. Et là, c'est la musique, elle est complètement traversée par son propos, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de différence entre l'élévation dont elle nous parle et la manière dont elle le fait. En fait, on est déjà dans ce truc hyper spirituel, rien que de l'entendre chanter. Quoi. Et en fait, quand on compose, je connais pas beaucoup de musiciens et je connais des écrivains aussi, c'est pareil. C'est difficile de lire ou d'écouter des trucs très proches en même temps. On a besoin de prendre des choses un peu plus lointaines. Et elle, c'est quelque chose que je pouvais écouter. Peut-être c'est trop long, mais La Panthère, ça me dirait bien en fait. La Panthère des Pyrénées, qui est le dernier morceau de Tarbes. Ouais, c'était un drone, finalement. Il n'y a qu'une note dans ce disque. Non, je plaisante. Mais, mais pareil, ouais, j'ai dû commencer « Quand je n'aurai plus Dieu ». C'est écrit dans la musique. Ouais. Et c'est une supplique.
Dont on va écouter donc un extrait.
Ah ouais, c'est peut-être ça, Léa. J'aurais
dû te... On ne pourra pas l'écouter en entier.
Quand je n'aurai plus Dieu comme un lac. Quand mon cœur sera froid comme l'air au glacier. Quand ma tâche sur terre sera terminée. J'aimerais qu'on m'emmène. J'aimerais qu'on m'emmène. déposer ma silhouette contre les rochers. À la faveur d'une ombre paraître aux passants fascinants.
Les oreilles. Dans les oreilles de
La Féline.
Avant-goût sur Radio Nova de cet hypnotique morceau La Panthère des Pyrénées que l'on suit avec délectation pendant près de 8 minutes sur Tarbes. Dernier disque de notre invité ce matin, La Féline. Suite et fin de cette immersion dans les oreilles de la musicienne qui partage avec nous ses coups de cœur. Retour au texte avec un fameux Pierre.
En parlant de Vassilou, moi j'ai découvert avec une compile qui s'appelle Phase B, qui était sortie chez Born Bad, à l'entour de Lune, que j'ai reprise, et d'autres chansons. Voilà, cette compile, elle présente un Vassilou très très séduisant, je trouve, pour nous, parce qu'il a, c'est à la fois folk et à la fois il y a quelque chose qui sonne très contemporain, parce qu'il est, il est complètement dans sa forme de vie. Il n'y a pas de faux semblant, c'est très très plaisant.
Au-delà des étoiles, alentour de lune, je connais une planète, je connais une planète où tout le monde est bête. Les êtres y sont méchants, corrompus et violents. Si l'amour n'a plus cours, les armes tordent nuit et jour. Dans tous les pays à la fois, c'est la terre son nom, je crois.
En fait, ce que j'aime, c'est vraiment, ils embrassent complètement la langue française. C'est clair, il y a même une attitude, sans doute, qu'on pourrait dire française. Et en même temps, à aucun moment, voilà, c'est en conflit avec la musique. C'est pas quelque chose qui vient. La musique n'est pas un décor derrière leur texte en français. C'est parfois, dans la chanson française, il y a un peu ce sentiment que les styles de musique peuvent défiler. L'important, c'est le chanteur qui a finalement. Et là, il n'y a pas de contingence. Autant Vassilou, voilà, qui était marqué par la musique sud-américaine, la musique de Chico Buarque. J'aime cette sensation-là. Je pense que j'aime leur côté folk. J'aime le folk français. Ouais, j'ai une sensibilité à ça. Julien Bert aussi, j'adore.
En amour qui m'attend sur la terre, rester seul devant ce mystère. Fallait-il que je quitte sa planète pour lui apporter des cigarettes? Ma lune 300 années, les miennes ton quartier, vais-je encore rester fidèle? Ma lune 300 années, les miennes ton bleu, renaître au milieu.
Je suis assez épatée en fait par ce que fait Redcar. Alors maintenant c'est Hill, mais voilà, moi j'avais partagé une scène avec Christine à l'époque où ça s'appelait Christine and the Queens. Donc comme tout le monde, hein, j'ai vu son évolution. Voilà, son dernier album, je suis assez épatée par la liberté totale qu'elle a prise en fait. Je trouve que c'est enthousiasmant. Là aussi, quand on écoute, il y a ce morceau là, Combien de temps, où voilà, c'est un sample de Gina X, mais donc déjà le sample il marche très bien. Là, ça dure 9 minutes. Bon, déjà sortir un morceau de 9 minutes en single, et bon, dans ses paroles, elle parle de chevalier. Enfin, c'est légèrement foireux, mais tellement assumé. Et alors avec cette voix, surtout, bon, elle assume, il y a sa transidentité en fait, et donc il y a quelque chose qui se déféminise en même. En même temps, ça, on dirait presque un peu du Catherine Ribeiro. Elle me fait même un peu penser à Mansé, dans cette espèce de parole un peu grandiloquente, en même temps très sexuelle. Donc ça nous éloigne un peu de Mansé, c'est plus high energy et tout ça. Mais je trouve que cette liberté, elle est vraiment excitante, quoi. C'est chouette. Et je pense qu'elle se prend pas mal de vent, parce que ça correspond pas tout à fait à ce que ses fans ont aimé peut-être au début. Mais moi, j'ai pas mal de respect, ouais, pour cette audace, quoi, dont elle témoigne.
Nova,
dans les oreilles de
La Féline.
Et vous écoutez quoi, sinon, en ce moment ?
J'écoutais Michel Clou. Parce que alors, Michel Clou, c'était une figure importante avec Michniak d'un groupe qui s'appelait Diabologum, groupe toulousain, voilà, dans les années 80, et qui a un peu lancé le talkover, c'est-à-dire des chansons comme ça, où c'était plutôt des instrus, pour le coup, assez post-rock, et puis des paroles un peu, à la fois un peu désespérées, très cinématographiques aussi. Et donc, et voilà, ils avaient vraiment une espèce de sens de la punchline, mais contemporain du hip-hop, mais disons blanc, classe moyenne, fragile et concerné politiquement. Et ça a été hyper important. Et Michel Clou, voilà, Michniak et Michel Clou ont continué chacun à faire des disques. Et là, Michel Clou vient d'en sortir un. Et je suis tombée sur un de ses morceaux, parce que j'ai écrit récemment pour l'Écale un texte sur la question de la jeunesse à travers l'histoire de la pop. Comment il y a des moments où on a plus convoqué la jeunesse qu'à d'autres moments. Ça a été plus une... Donc là, t'as toute l'idéologie post-68, où vraiment là, t'as l'impression que la jeunesse s'est fixée à une génération et qu'elle a appartenu à des gens pendant un peu plus longtemps que leur jeunesse. Ça, et puis en travaillant sur cette question voilà, de l'ancestrale jeunesse à l'intérieur de la pop, je suis tombée sur un morceau de Michel Clou qui s'appelle Vieillir, parce que je me rendais compte que dans la pop contemporaine, la question de l'âge est beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été. Aujourd'hui, ça va plus être une question sur l'identité. D'ailleurs, je ne sais plus, il y a une phrase de Christine où elle dit « Ouais, comme ça, je peux t'aimer à travers les âges ». On sent que c'est OK de traverser le temps, en fait. Ça y est, de toute manière, il y a trop de gens vieux dans la pop pour commencer à dire que la pop, c'est qu'un truc de jeune. C'est plus... Donc cette chanson, elle tombait complètement à pic de Michel Clou. Mais je voulais quand même dire aux auditeurs que je me sentais quand même hyper jeune. C'est The Museum of Mankind, qui est une compilation incroyable, où là, on a carrément de la musique des années 20, enfin même années 10, du monde entier. Et donc, c'est des enregistrements qui étaient pas vraiment ethnomusicologiques, c'était déjà des enregistrements faits par des maisons de disques pour être vendus en masse. Et donc, il y a de la musique grecque, de la musique marocaine. C'est en 4 volumes. En cours, hein, c'est-à-dire que ça évolue encore. J'aime beaucoup l'écouter de temps en temps. Ça a un effet de reset dans ma tête, c'est-à-dire quand on est complètement immergé dans les sons de l'époque, qu'on a déjà eu notre dose à 222% d'autotune et de beats post-trap. Et là, tout à coup, on entend un petit riff de Rebetiko du fond des âges. Et ça fait un effet reset, ça fait beaucoup de bien.
Καϊκέ και ένα σχολείο που τα μπάρτε να αγωγείο που τα μπάρτε να αγωγείο.
Et dernière question, c'est quoi la musique pour vous ?
L'intensité de la vie, c'est beaucoup de relations humaines finalement. Et c'est d'ailleurs le bonheur que j'ai à jouer aussi en concert, quoi. C'est que c'est de l'amour, quoi. Enfin, c'est du partage. C'est marrant parce que c'est des concepts un peu chrétiens, mais c'est assez sexuel aussi. Enfin, et aussi parfois c'est complètement au-delà du sexuel et aussi ça transcende. Donc ouais, je pense que je veux pas être de ce monde sans musique, quoi, c'est sûr.
Merci.
Merci à toi.
fin de cette heure passée en compagnie de la Féline, une immersion qui, je l'espère, vous aura donné envie, comme nous, d'agrandir votre discothèque et renvoie au plaisir de découvrir les musiques aimées que l'on nous partage. La Féline, dont le dernier disque Tarbes est désormais disponible et dont je vous recommande vivement l'écoute, un disque qu'elle présentera sur la scène de la Maroquinerie le 18 janvier prochain, après une tournée en Inde. Et enfin, merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est dès à présent disponible en podcast et en version augmentée avec d'autres découvertes. Donc, quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.